Chapitre 1 à 11 Salomon. Chapitre 1er La révolte d'Adonijah. Au moment où commence notre récit, le roi David était âgé d'environ 70 ans. Il était loin d'avoir atteint l'extrême vieillesse, mais une vie de souffrance, de combat et de chagrin use les forces de l'homme le plus robuste, en sorte que le roi était vieux, avancé en âge. À 33 ans, le Seigneur lui-même en paraissait 50. Jean 8, verset 57. Mais sa force était en son entier. Il n'était pas, comme David, usé par les chagrins, mais, homme de douleur, son visage était défait plus que celui d'aucun homme. L'amour imprimait ce caractère à ses traits, car il portait en sympathie toutes les langueurs que le péché avait amenées sur notre misérable race. Les serviteurs du roi imaginent un moyen de le rappeler à la vie, versets 2 à 4, imitant en cela les souverains des nations environnantes. Il semble que David ait manqué de volonté pour s'opposer au plan de son entourage. La tsunamite lui est amenée. Note 1. La parole ne nous autorise pas à affirmer, comme on l'a prétendu, quelle est la tsunamite célébrée au Cantique des Cantiques, au chapitre 6, verset 13. Elle le soigne et le sert. Cette Vierge d'Israël, extrêmement belle, sera considérée plus tard par Salomon comme un des plus précieux joyaux de sa couronne. Elle lui appartiendra, et quiconque osera lever les yeux sur elle pour la convoiter en portera le châtiment. Mais n'anticipons pas. Ce que la parole nous apprend, c'est qu'elle ne devient pas l'épouse de David, roi de grâce. Il en est ainsi actuellement de Christ. Tout en ayant les yeux sur Israël, il a maintenant une autre épouse prise d'entre les gentils. Il la conservera comme roi de gloire, mais comme tel, il renouera aussi ses relations avec le résidu d'Israël, les excellents de son peuple. Avant l'entrée en scène de Salomon, Adonijah, fils de Haggith, cherche à s'emparer du trône de David son père, versets 5 à 8. Venu au monde immédiatement après Absalom, verset 6, voire 2 Samuel 3, versets 3 et 4, quoique d'une autre mère, il pensait sans doute avoir les mêmes droits que ce dernier au royaume. Il s'éleva, disant, « Moi, je serai roi !» L'orgueil, une volonté sans frein qui n'avait jamais été réprimée, et sa haute opinion de lui-même, le dirigeaient. Il était un très bel homme. Ses défauts avaient été nourris chez lui par la faiblesse paternelle dont le rôle avait été si grand dans les désastres de la vie de David. Ce dernier n'était pas insensible à l'apparence de ses enfants, comme l'histoire d'Absalom le démontre, et peut-être avait-il, pour la même raison, ménagé la verge à Adonijah. Son père ne l'avait jamais chagriné en disant « Pourquoi fais-tu ainsi ?» Les familles des croyants voient bien souvent leurs témoignages ruinés par la faiblesse des parents. En épargnant la verge à leurs enfants, ils la préparent pour eux-mêmes, ainsi que du déshonneur pour Christ. Jamais Dieu n'agit ainsi. La preuve de son amour envers nous est fournie par sa discipline. La faiblesse des parents n'est pas une preuve de leur amour, mais de leur égoïsme qui s'épargne en épargnant leurs enfants. Proverbe 13, verset 24. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime met de la diligence à le discipliner. Adonijah suit le même chemin qu'Absalom, 2 Samuel 15, verset 1. Absalom se procura des chars et des chevaux et 50 hommes couraient devant lui. Peut-être avec moins de fourberie, car il manifeste ouvertement ses prétentions et se procure comme un souverain des chars, des coureurs et des cavaliers. Joab et Abiathar le suivent. Joab, toujours le même, ne cherche que son propre intérêt, et sentant David près de sa fin, se tourne vers Adonijah, comme jadis, à la toute première heure, vers Absalom. Comment aurait-il pu se déclarer pour le roi de justice? Les méfaits de sa vie passée devaient lui faire craindre un contact trop intime avec Salomon. Et puis, il n'y a rien dans le vrai roi qui soit un objet d'attraction pour la chair. L'homme naturel s'oriente et s'orientera sans hésitation vers l'usurpateur et le faux roi. C'est ainsi qu'on verra plus tard la terre tout entière dans l'admiration de la bête. Adonijah est le type de l'homme qui cherche à s'élever jusqu'au trône de Dieu. Daniel 11, verset 36. Et le roi agira selon son bon plaisir et s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux. Joab et Abiathar sont ceux qui en tirent profit. Daniel 11, verset 39. À qui le reconnaîtra, il multipliera la gloire. L'entourage d'Adonijah, ceux qui sont subjugués par son ascendant. Apocalypse 13, verset 4. Et ils rendirent hommage à la bête, disant « Qui est semblable à la bête ?» En ce qui concerne Joab, il faut, tôt ou tard, que la chair, quelque habile qu'elle soit, se produise à découvert et montre son vrai caractère. Joab avait pu longtemps se maintenir en compagnie de David, loin de l'Éternel, et donner le change sur les mobiles qui dirigeaient et dominaient son cœur. Mais il arrive toujours une occasion où le cœur naturel se montre hostile et rebelle et manifeste qu'il ne se soumet ni ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Abiathar, représentant de la religion, déjà condamné d'avance lors du jugement prononcé sur Élie en 1 Samuel 3, est aussi du parti d'Adonijah. Entouré de si belles apparences, il n'est pas étonnant que ce dernier devienne un centre de rassemblement pour le grand nombre. Il ne l'est pas pour la foi. Que peut trouver la foi dans la compagnie de l'usurpateur? Tsadok, Benaïa, Nathan et les hommes forts de David ne sont pas avec Adonijah. Le vrai sacrificateur, le prophète, porteur de la parole de Dieu, le vrai serviteur, Benaïa, qui marche sur les traces de son maître, qu'avaient-ils à faire avec lui? Le sacrificateur regarde à Dieu, le prophète à l'Esprit de Dieu, le serviteur à David, à Christ. Ont-ils besoin d'autre chose? Les hommes forts, eux qui ont trouvé leur force en David, iraient-ils après Adonijah qui ne peut la leur communiquer? Benaïa nous intéresse d'une manière particulière. Au temps de David, il occupait déjà une place prééminente de service. 1 Chronique 27, verset 5. Le chef du troisième corps d'armée, pour le troisième mois, était Benaïa. N'était-il pas digne, lui qui avait suivi en tout et comme pas à pas les traces de son maître, d'être établi plus tard chef de toute l'armée? Cependant, cet homme n'a d'autre ambition que de rester fidèle à son roi et de l'imiter. Il n'est pas comme Joab qui prend la forteresse de Sion pour acquérir le premier rang. Non, il est humble parce que son seul but est de reproduire David dans sa conduite. Adonijah, versets 9 et 10, donne à la réunion d'En-Rogel une fausse apparence de sacrifice de prospérité. Il marche sur les traces de son frère Absalom, qui disait vouloir offrir un vœu à l'Éternel. Il invite ses frères, fils du roi, et même les serviteurs du roi. Ces derniers vont à sa fête. Le rebelle n'est pas inquiet qu'il lui fasse défaut. On sait ce que vaut le titre de serviteur du roi. Si le cœur n'est pas réellement attaché à David, ou de serviteur de Dieu, si Christ n'est pas l'objet des affections. Combien de ces serviteurs du roi ne voit-on pas courir de nos jours à ceux qui cachent, sous des apparences de piété, la guerre qu'ils font à Christ? Mais Adonijah est trop avisé pour inviter ceux que leur foi ou leur témoignage gardent dans l'intimité de David. Il invite tous ses frères, un seul excepté. Le seul qui ait droit au trône, de par la volonté de Dieu et de son père, Salomon, celui qui va devenir le roi de gloire. Il est évident qu'il doit exclure de sa fête celui dont la présence le jugerait, le condamnerait, réduirait à néant tous ses plans, toutes ses ambitions. Christ est le dernier que le monde invite. Bien plus, il a horreur de l'inviter. D'autre part, y avait-il rien à cette fête à quoi Salomon pût s'associer? Non. S'il y était apparu, ça aurait été pour faire tomber ses rebelles sous un châtiment mérité. Au jour où ce grand danger menaçait Israël, aucune mesure n'avait été prise pour le conjurer. Versets 11 à 31. Le roi, affaibli par l'âge, retenu dans son palais, ne savait pas ce qui se passait. Heureusement, Dieu veillait pour lui. Dieu, qui a en vue la gloire de son Fils et son royaume, ne permet pas la réussite des desseins de l'usurpateur. Dans ce but, il envoie le prophète pour apporter à Bathsheba une parole de sagesse. Soyons certains que nous trouverons toujours dans la parole de Dieu le moyen par lequel Christ peut être glorifié et nous-mêmes préservés des embûches de l'ennemi. Quel contraste entre l'intervention de Nathan et celle de Joab auprès de David par la femme Tekoïte en 2 Samuel 14. Là, tout était ruse et mensonge pour agir sur l'esprit du roi en flattant ses secrets penchants et pour substituer finalement à David un homme fourbe et violent comme roi sur Israël. Ici, la prudence enseigne ce qu'il y a à faire, mais ne se sépare en aucune manière de la vérité. Il fallait que le roi eût conscience d'un danger imminent, il fallait le décider à agir résolument pour Dieu. La pensée de l'Éternel, en ce qui concernait Salomon, avait été révélée à David, qui la connaissait fort bien. Ce n'était pas sans motif que le Seigneur avait donné au fils de David le nom de Jedidia, bien-aimé de l'Éternel, en 2 Samuel 12, verset 25. David connaissait si bien la pensée de Dieu à ce sujet qu'il avait juré à Bathsheba par l'Éternel, le Dieu d'Israël, disant « Salomon, ton fils, règnera après moi, et lui s'assiera sur mon trône à ma place. » Versets 17 et 30. Il suffisait de rappeler son serment à cet homme de foi pour qu'il vît le chemin à suivre. Adonijah avait sans doute compté sur l'affaiblissement des facultés de son père pour s'emparer du royaume, mais il avait compté sans Dieu, sans le prophète, sans la vérité dans le cœur du roi. Bathsheba parle avec respect et hardiesse. Elle montre à David qu'il ignore le danger, verset 18, que son dessein arrêté était d'avoir pour successeur un roi selon le cœur de Dieu, verset 17. Elle lui montre aussi sa responsabilité vis-à-vis d'elle, de son fils et du peuple, car les yeux de tout Israël étaient sur David, pour qu'il déclarât qui devait s'asseoir après lui sur son trône. La vérité est dans le cœur de cette femme, comme dans celui du prophète, bel exemple de l'esprit dans lequel nous devons agir les uns vis-à-vis des autres. Nathan paraît à son tour et, dans un entretien particulier avec le roi, fait ressortir que non seulement aucun des serviteurs fidèles de l'Éternel n'avait été invité, mais, par-dessus tout, que Salomon avait été mis volontairement de côté. Que faut-il attendre de celui qui n'accorde au Seigneur, au vrai roi, aucune place dans ses projets ou dans sa vie? Nathan fait encore ressortir que les vrais serviteurs du roi ignorent ses desseins. Verset 27. Certes, il n'en est pas de même pour nous. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, Éphésiens 1, qui est de réunir toutes choses sous le Christ. Mais le vieux roi doit être exhorté à révéler son secret. Aussitôt sa décision est prise, toute son énergie se réveille quand il s'agit du bien-aimé. Ainsi, dit-il, je ferai ce jour-ci. Verset 30. Nous avons vu que, dans ce chapitre, l'intervention de Nathan était selon Dieu et selon le respect dû au roi. Il ne s'agit pas ici d'un conseil humain, comme lorsque ce même Nathan disait à David « Va, fais tout ce qui est dans ton cœur » de Samuel 7, verset 3. Mais d'une sagesse divine qui a pour but de garder le roi prophète de chute et de revendiquer l'honneur de Salomon, loin de l'Éternel, après son père. Il s'agit avant tout de déployer la bannière de Dieu quand Satan a élevé la sienne. Deux camps se forment. Dans le premier, les masses qui sont pour l'usurpateur. Dans le second, et c'est le petit nombre, les adhérents de David et de Salomon. Sans doute, l'énergie de David comme porteur et représentant de l'autorité s'était affaiblie. Il en a été de même de l'Église de Christ, mais la fidélité de Dieu demeure et restera toujours. La parole dont Nathan est le représentant demeure. Le Christ dont Salomon est le type demeure. De ce côté-là, pas de faiblesse. On raisonne aujourd'hui comme si la parole de Dieu et le Christ de la parole avaient fait leur temps. On parle beaucoup d'un développement subséquent de la vérité qui n'est que relative, d'un christianisme qui a vieilli et tira sa fin. En effet, le christianisme a vieilli. L'Église représentante du Dieu ici-bas s'est affaiblie. Mais la parole qui est la vérité est restée la même. Mais Christ n'a pas changé. Et c'est ce que les chrétiens oublient. Au lieu de s'attacher à Christ, par le sentiment même de la ruine dont ils sont les auteurs, ils rejettent un Salomon pour écouter des Adonijas et leur entourage. Le faux roi attire leur regard. Adonijah était très beau. N'oublions pas que cette apparence sert de marque au séducteur qui entraîne les hommes après lui. Il préfère à Christ le règne de l'homme dans la chair, et pour la chrétienté, cette préférence finira par l'apostasie ouverte. Adonijah, Joab, Abiathar se doutaient peu qu'ils trouveraient dans le vieux roi un obstacle à l'accomplissement de leur complot si savamment ourdi. Cet obstacle était, malgré l'âge du roi, une autorité que Dieu avait établie entre ses mains et qu'il emploierait malgré la faiblesse de David. Voilà ce qui retenait à ce moment-là le débordement du mal, et c'est aussi ce qui empêche aujourd'hui la manifestation prématurée de l'homme de péché. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère d'iniquité opère déjà, seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. Après son entretien avec Nathan, le roi fait rappeler Bathsheba, versets 28 à 31. Il jure d'établir Salomon et en appelle au caractère de son Dieu qui a racheté son âme de toute détresse. La grâce l'avait accompagné tous les jours de sa vie, rachetant son âme même des conséquences de ses fautes. Mais toute cette grâce devait avoir son couronnement. Elle aboutit en effet toujours à la gloire. L'Éternel donne la grâce et la gloire, deux choses inséparables, l'une suivant nécessairement l'autre. Salomon se rend à Guillon, monté sur la mule de son père, et en revient consacré pour s'asseoir sur le trône du roi. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, son règne identifié avec celui de David le continue sans aucun interrègne. La même monture royale, la même onction, le même trône. Le trône de gloire de Salomon est, à ce moment, le même que le trône de grâce de David. Cela est encore bien plus vrai si nous nous reportons du type à l'antitype, car on n'y trouve pas, comme ici, deux personnages successifs sur le même trône, mais un seul. Nos yeux verront dans la personne du roi de gloire celui qui a traversé les souffrances, l'angoisse et la détresse, le sauveur qui a souffert pour nous. Tous ceux qui sont restés fidèles au roi de grâce concourent à la proclamation du roi de gloire et forment son cortège. Il en sera de même du résidu d'Israël au début du règne millénaire de Christ, mais, à bien plus forte raison, des croyants actuels qui ont suivi le sauveur pendant sa réjection. Lui qui, chassé de ce monde par l'homme, s'est assis dans le ciel sur un trône de gloire. Ce trône, nous l'entourons déjà maintenant, mais il reste le trône de la grâce aussi longtemps que notre Seigneur est rejeté. Quand il sera reconnu, nous serons avec lui sur son trône, partageant avec lui son règne et son gouvernement sur Israël et sur les nations. En attendant que Salomon établisse, comme nous le verrons plus tard, son propre trône, son père dit « Qu'il s'asseye sur mon trône, et lui régnera à ma place. » Benaïa, le fidèle serviteur, apprécie plus que tout autre ce changement. Versets 36 et 37. « Amen. Que l'Éternel, le Dieu du roi, mon Seigneur, dise ainsi. Comme l'Éternel a été avec le roi, mon Seigneur, qu'il soit de même avec Salomon, et qu'il rende son trône plus grand que le trône du roi David, mon seigneur. » Salomon reçoit l'onction royale, versets 38 à 40. La corne d'huile était dans le tabernacle. C'était une onction privée et comme cachée, à laquelle n'assistait que la partie fidèle du peuple. Il en est de même aujourd'hui. Avant de régner en gloire sur toute la terre, le Seigneur a reçu l'onction du tabernacle. Il a la royauté céleste sur le trône du Père, il est haut élevé, avec un nom au-dessus de tout nom. L'huile de l'onction est une huile de joie qui l'élève au-dessus de ses compagnons. Mais c'est en même temps une onction sacerdotale, car l'Éternel l'a juré et ne s'en repentira pas. Il est roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dès le début, le Seigneur était loin de l'Éternel, comme David l'avait été dès sa première jeunesse. Il était né pour cela. Au baptême de Jean, il avait été loin du Saint-Esprit pour son ministère. Luc 3, verset 21. Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit-Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Acte 10, verset 38. Jésus, qui était de Nazareth, Dieu l'a oint de l'Esprit-Saint et de puissance. Acte 4, verset 27. Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël. Ressuscité, il est oint de l'huile de tabernacle, comme roi et sacrificateur, pour communiquer les dons spirituels à ceux qui lui sont unis. Israël jouira de ses bénédictions au temps de la fin. En attendant, nous sommes les compagnons de Christ. L'onction versée sur sa tête est aussi répandue sur la nôtre et nous permet de partager sa joie en attendant sa gloire. Dans Roguel, le parti d'Adonija pouvait entendre la joie de Jérusalem, mais ce qui se passait à Guillon ne pouvait atteindre les oreilles de l'usurpateur et de sa bande. La ville tout entière séparait ces deux localités en apparence assez semblables. Note 1. À Guillon, sortaient les sources d'eau qui, sous Ézéchias, alimentèrent Jérusalem. Il y avait aussi des sources à Enroguel, comme ce nom l'indique. Il en est de même aujourd'hui. Le monde suit ses plans pour usurper la dignité de Christ. L'homme est en voie de se déifier, inconscient de ce qui se passe tout près de lui. Mais il y a des fidèles qui honorent le Fils et, en le faisant, honorent le Père qui l'a envoyé. Ils voient, couronné de gloire et d'honneur, ce Jésus que le monde n'a pas invité à sa fête. Entièrement étrangers au festin d'Adonija, ils sont en route pour assister à l'établissement du roi de gloire sur son trône. De tout cela, le monde ne voit et n'entend rien. Guillon, aux eaux rafraîchissantes, semble ignoré d'Adonija. Mais quel réveil! Quel trouble envahit le monde à son festin! Tout à coup, au milieu de la fête, le faux roi, Joab et tous les invités entendent le son de la trompette et de tels cris de joie que la terre se fendait au bruit du cortège de Salomon. « Pourquoi, dit Joab, ce bruit de la ville en tumulte ?» C'est ainsi que l'établissement public du règne de Christ surprendra le monde et le troublera profondément. Alors celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion. Psaume 2, versets 4 à 6. N'entend-on pas le bruit de cette scène dans notre chapitre? De nos jours, nous sommes encore à Guillon. Notre roi a été oint, mais n'a pas encore pris les rênes de son gouvernement. Notre joie n'est pas encore publique, et celle de son peuple Israël attend un jour à venir. Mais quand ils entendront le bruit des acclamations, quelle terreur saisira les adversaires! Ce sera l'avant-coureur du jugement qui les atteindra sans dévier ni à droite ni à gauche. Jonathan, fils d'Abiathar, paraît soudain au milieu des convives. Versets 41 à 48. Jadis, en 2 Samuel 17, il était parti d'Enroguel en compagnie d'Achimatz, fils de Tsadok, pour aller, au péril de sa vie, avertir David de ce qui se tramait contre lui. Maintenant, il y revient pour avertir Adonija de l'insuccès de sa tentative, bien qu'il ne soit nullement associé aux révoltés. Il vient, plein de ce qui est, pour lui, une bonne nouvelle, car on voit à son langage que son cœur est resté fidèle à David. « Tu apportes de bonnes nouvelles ?» lui dit Adonija. « Oui, » répond-il. Mais elle ne l'était pas pour ses auditeurs. Elles sont un désastre pour Adonijah. Cela n'exclut nullement les sentiments filiaux de Jonathan pour son père, engagé par sa propre faute dans ce chemin sans issue. Ces sentiments font que Jonathan rapporte avec vérité à cette assemblée tout ce qui a eu lieu, ne leur cachant rien. Qu'ils prennent garde. Quant à lui, sa joie, on le sent, est avec le successeur de David. Son service n'a pas changé de caractère depuis le temps des afflictions de son roi. Il est toujours prompt à donner des nouvelles, comme son compagnon Akimaat était prompt à courir. Son caractère a une remarquable unité. Qu'il accomplisse son service envers David pendant sa réjection ou envers le monde au jour du triomphe du fils de David, Jonathan reste le même messager fidèle. Le temps presse. Il faut se soumettre promptement en baisant le fils. Il en sera de même à la fin des jours, quand ceux que le roi appellera ses frères iront annoncer au loin la nécessité de reconnaître le règne du vrai Salomon. Comme autrefois Jacob, le vieux roi, voyant les désirs de son cœur accomplis, s'était prosterné sur son lit. Verset 47. On trouve chez David la lenteur de l'âge à prendre une décision, mais dès que la parole de Dieu lui est adressée par Nathan, tout change. Il n'hésite pas, règle et ordonne tout, agit en tout point selon les pensées de Dieu que la parole lui rappelle. D'abord, il ignorait le complot. Maintenant, il sait tout. Il sait que l'heure du règne de son fils a sonné. Il n'a ni amertume, ni déplaisir, ni jalousie en confiant à d'autres mains les rênes du gouvernement. Une seule pensée le remplit de bonheur et d'adoration. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a donné aujourd'hui quelqu'un qui fut assis sur mon trône, et mes yeux le voient. David n'est plus ici le type de Christ, mais la figure du croyant qui s'oublie et se fond en action de grâce pour donner toute gloire au vrai roi, le type de ces saints qui, parés de leur couronne glorieuse, s'en dépouillent pour en orner les marches du trône du lion de Juda, racine de David. Mais ce lion de Juda est l'agneau qui a été immolé. La grâce de David et la gloire de Salomon se concentrent dans cette personne unique. La joie d'un Siméon tenant dans ses bras la grâce et le salut de Dieu représenté par l'enfant Jésus se confondra dans le ciel avec la joie d'un David qui voit resplendir la gloire de Dieu dans la personne du roi. Au verset 49 à 53, tous les convives d'Adonijah, saisis de peur, s'enfuient de côté et d'autre. Ils n'essaient pas plus de résister que ne le feront les hommes devant la proclamation de la royauté de Christ, car ils seraient immédiatement brisés. Adonijah implore la bonté du roi et cherche à obtenir de lui la promesse solennelle d'épargner sa vie. Salomon consent à oublier, à faire grâce encore une fois, mais il place Adonijah sous la responsabilité devant la gloire de son règne. S'il est un homme fidèle, pas un de ses cheveux ne tombera en terre. Mais si du mal est trouvé en lui, il mourra. Il en sera de même sous le règne futur du Messie. Il épargnera beaucoup de rebelles qui s'approcheront de lui avec des signes de repentir, mais dès que le mal sera trouvé en eux, il les retranchera du pays. 2 Samuel 22, verset 45. Les fils de l'étranger se sont soumis à moi en dissimulant. Dès qu'ils ont entendu de leur oreille, ils m'ont obéi. Psaume 101, verset 8. Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays pour retrancher de la ville de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité. Quand la justice règne, elle ne supporte plus le méchant. Salomon, figure du roi millénaire, connaît Adonijah et ne modifie pas son jugement quand il le voit prosterné devant lui. Il sait ce qui se passe dans ce cœur orgueilleux qui n'a que les dehors de la soumission et du repentir. « Va dans ta maison, lui dit-il. » Parole brève et sévère. Adonijah devait y prendre garde. Désormais, son rôle était de se taire, comme un homme trouvé coupable et qui reste sous surveillance. Il bénéficie de ce support aussi longtemps que le mal ne vient pas se manifester chez lui.